Au cours de l'été 1896, Can Martin Dibobé, 20 ans, est exhibé lors de la Grande Exposition Universelle de Berlin. Il y participe à une exposition humaine. Elle vise à susciter l'enthousiasme des Allemands pour le colonialisme. Personne ne se doute alors que ce Camerounais deviendra un pionnier de la défense des droits de l'homme qui défiera le système d'exploitation mis en place par l'Allemagne dans ses colonies.
Vous êtes à l'écoute du programme « Dans l'ombre de la colonisation allemande ».
En Allemagne, Martin Dibobé est sans doute mieux connu pour avoir été le premier conducteur de train noir du pays. Le statut de cheminot était prestigieux au début des années 1900. Mais Dibobé a été bien plus que cela. Il naît près de Douala, au Cameroun, en 1876. Son père est un dignitaire local. Martin Dibobé débarque en Allemagne au milieu des années 1890 pour participer à la Grande Exposition de Berlin. Elle a pour ambition de montrer que l'Allemagne est une terre d'opportunités. Les colonies sont l'un des éléments qui doivent le prouver. Les visiteurs sont donc invités à découvrir la vie quotidienne dans les colonies, une exposition dite ethnologique. Aujourd'hui, on l'appellerait un zoo humain. Dibobé n'est que l'un des plus de 100 Africains qui participent. Certains ont été amenés de force. D'autres ont été attirés par la promesse d'un salaire. Ils viennent des territoires allemands de Namibie, du Togo, de Tanzanie et du Cameroun. Des Herero, Nama ou Maasai, tous arrachés au continent pour le spectacle. Dibobé est identifié par un numéro, le 76. Le jeune Camerounais sait lire et écrire l'allemand. Il a été éduqué dans une mission au Cameroun. Avec ses compagnons d'infortune, il est forcé d'incarner un soi-disant indigène primitif dans un village artificiel bien loin des réalités qu'il a connues dans sa terre natale. Et pourtant, les visiteurs affluent. Pendant 6 mois, environ 7 millions d'Allemands y découvrent la vie imaginaire dans un faux village africain. Katharina Nguntoy, historienne berlinoise, explique que l'exposition faisait partie d'un effort concerté de propagande pro-coloniale.
Des clubs et des organisations reconnues par l'État comme la Société coloniale allemande y diffusaient une importante propagande pro-coloniale. Ils voulaient faire passer une idée bien définie aux Allemands ordinaires. Nous avons besoin de colonies. À cette époque, contrairement à aujourd'hui, les gens ne savaient pas grand-chose du monde au-delà des frontières de l'Europe. Il fallait donc d'abord leur vendre l'idée que le colonialisme était quelque chose de formidable pour qu'ils deviennent partie intégrante de la conscience nationale.
L'exposition n'est que l'une des facettes de la propagande. La mission civilisatrice, le racisme et le racisme scientifique sont autant d'arguments utilisés par les colonialistes pour obtenir le soutien du grand public en Allemagne. Dibobé et beaucoup d'autres subissent des examens corporels humiliants pratiqués par des étudiants en sciences dites raciales. Cette discipline naissante doit alors permettre de prouver les théories eugénistes aujourd'hui discréditées. Malgré le caractère déshumanisant de la situation, Dibobé choisit de rester à Berlin. On ne connaît pas les détails de sa vie à cette époque. On sait que Dibobé effectue d'abord un apprentissage d'artisan. Et selon Nguntoy, ce n'était pas si rare.
Les gens ont d'abord réagi avec curiosité à l'égard des Africains. Ils sont considérés comme des personnes fascinantes issues d'une haute culture. C'est surtout à Berlin, mais aussi dans d'autres grandes villes allemandes, qu'ils ont d'abord été accueillis. Bien sûr, il y a eu des agressions, mais il y avait aussi beaucoup, beaucoup de gens qui les acceptaient comme des personnes normales. La plupart d'entre eux ont fondé des familles ici. Ils se sont mariés et ont vécu ici avec leurs femmes et leurs enfants.
Pourtant, lorsque Dibobé fait le projet d'épouser la fille de son propriétaire, la ville et les autorités coloniales n'autorisent son mariage qu'après vérification de son identité auprès du missionnaire qui l'a éduqué au Cameroun. En 1902, Dibobé devient conducteur de train pour le tout récent métro de Berlin. Un mélange de curiosité et de préjugés racistes fait de Dibobé une sorte de célébrité dans l'Allemagne au début du XXe siècle. Selon Nguntoy, les premiers Africains installés en Allemagne étaient loin d'être des victimes passives du colonialisme. Ils étaient engagés au sein des communautés.
Ici, ils étaient libres. Ils vivaient dans un monde cosmopolite. Ils pouvaient travailler, gagner de l'argent. Et avec cet argent, ils vivaient correctement. Ils pouvaient envoyer des fonds en Afrique. Le fait que les Africains aient été victimes de discrimination n'est en fait qu'une demi-vérité. Il y avait bien sûr de la discrimination, mais il y avait aussi une certaine liberté de circulation. Les gens pouvaient se former professionnellement.
Dibobé est considéré comme un modèle pour ses pairs. Sa réputation grandit. Les autorités coloniales le renvoient au Cameroun en 1907 en tant que consultant pour la construction d'une ligne de chemin de fer. Le traitement réservé aux Camerounais n'a rien d'admirable. Dibobé est choqué par les méthodes employées par les entreprises allemandes. Mauvaises conditions de travail, coûts, expropriation, racisme et mauvais traitements sont le lot quotidien de la population locale. Mais à Berlin, où il a vécu et travaillé, Dibobé a été exposé aux idées socialistes sur les droits des travailleurs. En particulier, la position anti-impérialiste des socialistes qui ne cautionnent pas l'asservissement des peuples des colonies par l'Allemagne. De retour en Allemagne, Dibobé prend part à des grèves ouvrières, soutient les sociodémocrates et milite au sein de la Ligue des droits de l'homme, une organisation créée en 1914. L'une des conséquences imprévues du colonialisme allemand, du moins pour les autorités coloniales, est l'arrivée d'Africains en Allemagne, en particulier dans les régions portuaires et cosmopolites telles que Hambourg, Brême et Berlin. Leur présence devient de plus en plus visible avec l'augmentation des échanges commerciaux entre l'Afrique et l'Allemagne. Mais comme le souligne le professeur Gilbert Ngimdo, historien camerounais, cela n'a pas fait d'eux des Allemands.
Les Allemands ne voulaient pas reconnaître les Allemands africains ou afro-allemands comme des Allemands, même s'ils parlaient couramment la langue et qu'ils étaient en mesure de coopérer. Il est donc difficile pour les Camerounais de se faire une idée de qui était Dibobé et de lui donner l'importance qu'il mérite.
Dibobé et tous ceux qui, comme lui, ont choisi de rester en Allemagne se sont retrouvés dans une zone grise en matière de citoyenneté.
Du point de vue allemand, ces sujets dits coloniaux devaient rester dans leur pays d'origine.
Marianne Gerst-Bauhausest, professeure associée à l'Université de Cologne.
Il devait y avoir une séparation claire entre les personnes vivant en Allemagne, entre les Allemands blancs et les personnes vivant dans les colonies. Certaines sources indiquent également que l'on craignait que les habitants des colonies, en venant en Allemagne, ne se rendent compte que tout n'y était pas si rose, avec la pauvreté, l'alcoolisme et toutes ces choses-là. On voulait empêcher ça.
Mais les Africains s'installent malgré tout en Allemagne. En 1919, au nom des Africains vivant dans les colonies allemandes, Dibobé et 17 autres Afro-Allemands adressent une pétition au gouvernement pour obtenir une représentation politique, l'égalité des droits et la fin du travail forcé. La pétition énumère 32 points. Il est intéressant de noter que la pétition de Dibobé prête allégeance à la République allemande de Weimar et y envisage un avenir pour les Africains. Après tout, les signataires avaient fait leur vie en Allemagne et pensaient que ce pays devait respecter ses propres lois dans ses colonies.
La voix authentique des Africains nous parvient, ce qui est tout à fait passionnant. Ils pensaient que leurs revendications allaient être écoutées. Les pétitions étaient fréquentes comme outil politique à l'époque. Elle pouvait être source de changement, mais leur pétition est restée lettre morte. Ils n'ont pas été pris au sérieux sans vraiment qu'eux-mêmes n'en soient conscients. Ils étaient confrontés à des attitudes racistes qui les privaient de leurs droits les plus élémentaires.
C'était trop tard. Entre-temps, l'Allemagne avait cédé ses colonies à d'autres nations européennes conformément au traité de Versailles. La pétition restera sans suite. L'activisme de Dibobé commence à déranger à Berlin. Les autorités allemandes le considèrent désormais comme un fauteur de troubles. Il est licencié de son poste de cheminot. Il tente alors de rentrer au Cameroun en 1922. Mais la France, désormais maître des lieux, lui refuse l'entrée sur le territoire. Il est considéré comme une menace pour l'ordre public. Dibobé, âgé alors de 45 ans, prend la route du Libéria où on perd sa trace. On suppose qu'il y a vécu jusqu'à sa mort. Plus de 100 ans plus tard, la pétition de Dibobé est considérée comme l'un des documents politiques les plus importants dans l'histoire des migrations africaines dans la première moitié du 21e siècle. Dibobé est une icône de l'activisme anticolonial de la première heure et des droits de l'homme. Dans l'ombre de la colonisation allemande est un programme de la DW produit avec le soutien du ministère fédéral allemand des Affaires étrangères. Mon nom est Nafissa Amadou.